Sajo et ses castors par Gray Hall. Première cassette, deuxième face, page 25. Quand il eut mangé, Gitche Miguon passa un moment à fumer tranquillement en écoutant la chanson de la brise dans les larges rameaux en éventail des grands pins. Cette chanson était pour lui une véritable musique, tandis qu'il se reposait, étendu sur le dos, en suivant des yeux la fumée paresseuse qui traçait dans l'air d'étranges figures. Oui, pour lui, toutes ces choses étaient images et musiques, et peut-être y prenait-il autant de plaisir que vous en avez vous-même à voir un film ou à entendre la radio. Au bout d'un moment, il recouvrit son petit matériel avec le canot retourné et prenant son fusil au canon allongé, il se mit en route le long du ruisseau pour gagner l'étang des castors qu'il était sûr de rencontrer un peu plus haut. Il marchait tranquillement dans la paix de la forêt assoupie où ses mocassins ne faisaient aucun bruit et ne laissaient aucune trace. Les écureuils bavards l'interpellaient du haut des arbres d'une voix stridente. Les geais du Canada, G-E-A-I-S bien sûr, ces oiseaux joyeux et malins qu'on rencontre à peu près partout, le suivaient en sautant d'arbre en arbre, le dépassant parfois pour le considérer d'un air sagace et le saluer d'un sifflement au passage. La compagnie de toutes ces petites bêtes plaisait à Longue Plume. Aussi avançait-il sans se presser, quand soudain il s'arrêta, l'oreille tendue. Son ouïe fine venait de percevoir un bruit étrange, inattendu. Ce bruit s'enfla très vite au point de devenir un grondement, et l'Indien vit un flot jaunâtre et boueux, charriant des quantités de bâtons et de broussailles, se précipiter dans le lit du petit ruisseau qu'il eut vite fait de remplir jusqu'au bord. Quelque chose de terrible se passait chez les castors. Quelqu'un, homme ou bête, avait rompu le barrage de leur étang et ce torrent impétueux, c'était l'eau que les castors avaient mise en réserve au prix de tant de peine et dont ils ne pouvaient se passer. Aussitôt, son fusil à la main, Gitche Miguon s'élança au travers de cette forêt, si paisible un instant auparavant et qui semblait maintenant sombre et menaçante. De toute la vitesse de ses pieds agiles, il courait au secours de sa colonie de castors, menacée, franchissant d'un saut les troncs d'arbres abattus, fonçant droit devant lui sans se soucier des branches et du taillis embroussaillé, bondissant comme un chevreuil à travers le bois ombreux, avec l'espoir qu'il arriverait encore à temps. Car il avait bien deviné ce qui était arrivé. Negik, N-E-G-I-K, la loutre, ennemi mortel et acharné du peuple castor, avait ouvert les hostilités et en ce moment même, l'euro étant épuisé, les castors devaient lutter pour défendre leur existence. Chapitre 3. La maison des castors. Si nous avions remonté le cours de ce rapide petit affluent, au lieu de regarder Gitche Miguon préparer son repas, nous serions arrivés à l'habitation des castors avant que la loutre eût rompu le barrage et nous aurions vu comment était faite cette habitation et comment y vivaient les castors. Après une assez longue marche, nous nous serions trouvés tout à coup sur le bord d'un étang petit et profond. Juste à l'entrée de l'étang, barrant le lit du ruisseau qui en sortait, se dressait un long mur épais formé de bâtons et de broussailles. Ces matériaux étaient étroitement entrecroisés, les fentes bouchées avec de la mousse et le tout bien cimenté avec de la boue. De lourdes pierres posées sur le haut de ce mur en assuraient la solidité. Il avait environ 30 mètres de long sur une hauteur de plus d'un mètre. Il laissait passer l'eau par un étroit conduit aménagé au sommet au moyen de bâtons. L'eau du ruisseau ne pouvait s'écouler que par cet endroit qu'on pouvait facilement surveiller. Ce travail était si bien fait qu'on eût dit l'œuvre d'une équipe d'ouvriers, cependant ce n'étaient pas des hommes, mais des animaux qui l'avaient exécuté. Ce mur, véritable barrage, avait l'air de retenir l'eau de l'étang, et c'est en réalité ce qu'il faisait. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'étang dans cette dépression de terrain, mais seulement un ruisseau coulant tout au fond. L'étang luisait au soleil. Abrité par les collines au feuillage murmurant, il était très paisible et très silencieux. Les quelques canards qui sommeillaient tranquillement sur l'eau paraissaient flotter dans l'air et les minces peupliers blancs qui se dressaient sur le bord se reflétaient avec une telle netteté sur sa surface unie qu'il était difficile de dire où finissait l'eau et où commençaient les arbres. Cette eau bleue, ces eaux bépines en fleurs, ces peupliers argentés formaient un paysage vraiment féerique. Il y régnait un profond silence, car rien ne remuait, et sans les canards assoupis, on eût dit que toute vie en était absente. Cependant, si vous aviez eu la patience d'attendre un moment sans parler, même tout bas, ni bouger, voici ce que vous auriez vu bientôt. Une ondulation sur l'eau près du bord, puis une petite tête brune aux oreilles rondes qui se glisse avec précaution entre les joncs de la rive, l'œil et l'oreille aux aguets, le nez subtil en éveil. La tête est suivie d'un corps fourré. L'animal, maintenant parfaitement visible, nage rapidement, mais sans bruit, vers un autre point de la rive où il disparaît parmi les roseaux. Durant une minute, les grandes tiges se balancent et s'agitent, puis l'animal reparaît, poussant une grosse touffe d'herbe devant lui, et repart à la nage vers un grand monticule de terre noire, dont la vue n'est pas sans nous intriguer, et juste avant d'y arriver, il plonge tout entier dans l'eau avec sa charge. À peine a-t-il disparu, qu'une autre tête se montre sur l'eau en compagnie d'une autre touffe d'herbe arrivant d'une direction différente. Mais en cet instant, quelque chose ayant remué, une large queue plate s'abat lourdement sur l'eau qui rejaillit de tous côtés, tête et fardeau plongent et l'on ne voit plus rien. C'était exactement ce qu'avait observé Longue Plume ce matin-là sur la rivière et pour la même raison. Le grand monticule, plus haut qu'un homme, était une hutte de castor, et les têtes brunes et fourrées appartenaient à ceux qui l'avaient construite. Ils avaient vraiment bien travaillé. Notons ici que généralement, la hutte des castors est construite parfois plus près de la digue, mais elle s'en trouve souvent aussi à une distance considérable. Notons aussi que les castors qui nagent gardent leurs pattes de devant repliées contre la poitrine. Ce sont les pattes de derrière qui font tous les mouvements de natation. Les pattes de devant servent tantôt comme des pieds pour marcher, tantôt comme des mains pour travailler et saisir les objets. Le castor se tient souvent debout comme un homme sur ses pattes de derrière. Il avance alors lentement, mais avec assurance. C'est de cette façon qu'il transporte les fardeaux qu'il peut tenir entre ses pattes de devant, terre, boue, menus matériaux. Pour traîner de lourds bâtons, il se sert de ses quatre pattes et de ses dents. Le castor ne se sert jamais de sa queue pour travailler. Il s'en fait seulement un support quand il marche sur deux pattes ou un balancier quand il se hisse sur les arbres abattus. Lorsqu'il nage, sa queue lui sert tantôt de gouvernail, tantôt de rame. Il en frappe l'eau s'il veut donner au sien un avertissement. Ce son brusque varie légèrement selon qu'il annonce un danger ou qu'il renseigne sur la direction suivie par le castor. Les petits montent parfois sur la queue paternelle ou maternelle pour faire une promenade. La maison, ici, avait plus de 2 mètres de haut et environ 3 mètres de large. Elle avait été récemment bien enduite de boue humide. De lourds rondins appliqués sur ses pentes en assuraient la solidité. C'était un abri sûr et résistant, au point qu'un orignal, je te rappelle que c'est un élan de la taille d'un cheval, aurait pu monter dessus sans l'endommager le moins du monde. Un large sentier y conduisait, qui avait servi à amener les matériaux. Si vous vous étiez trouvé là quelques semaines auparavant, en observateur patient et discret, et pourvu que le vent ne vous eût pas joué le tour de révéler votre présence à ses nez au subtil odorat, vous auriez pu voir le père castor arracher à la rive une motte de terre, la porter jusqu'à sa maison en nageant lentement pour n'en rien perdre, puis, se dressant debout comme un homme, monter tout en haut de la construction, sa charge entre les pattes de devant, la basculer, pousser la terre à l'aide de ses mains dans les recoins et les fissures, et finalement y enfoncer un bâton de bonne taille pour tout maintenir en place. Un tel travail n'avait pas été fait sans raison. En cette importante saison du mois des fleurs, vivaient, cachés à tous les yeux, à l'intérieur de cette singulière maison, quatre minuscules castors. C'étaient de petits êtres laineux, parfaitement formés, avec des yeux noirs brillants, des pattes de derrière palmées, des pattes de devant pareilles à des mains, et de petites queues plates qui semblaient être en caoutchouc. Ils avaient des appétits voraces et devaient posséder d'excellents poumons, car c'étaient des petites créatures bien bruyantes. Ils ne cessaient de pousser de longs vagissements comparables à ceux des petits bébés. Comme tous les autres bébés, ils avaient besoin de beaucoup de soins et soyez sûrs qu'on les leur donnait sans compter. L'intérieur de la hutte formait une chambre assez vaste où un homme accroupi aurait pu tenir facilement. Grâce à son plancher d'écorce de bouleau et à sa litière d'herbes aromatiques, elle était très propre et sentait bon. Un court tunnel en pente assurait la communication de la hutte avec l'extérieur. Il s'ouvrait dans le plancher, formant un trou rond rempli d'eau, que nous appellerons le trou de plongée, et débouchait plus bas, tout près du fond de l'étang. Le barrage maintenait l'eau au niveau du sol de la chambre, gardant le trou de plongée toujours plein, de façon à permettre aux petits castors, peu solides sur leurs pattes, de boire sans culbuter dans l'eau ou, s'ils perdaient l'équilibre, ce qui leur arrivait souvent, de remonter facilement sur le bord. Le tunnel entier et son autre orifice étaient complètement submergés, de sorte qu'aucun animal de terre ferme ne pouvait s'y introduire, ni même en connaître la présence, à moins d'être un plongeur émérite, ce qu'ils ne sont pas pour la plupart. Mais que la digue vint à se rompre et laissa échapper l'eau de l'étang, les castors se trouveraient en grand danger. Non seulement leurs ennemis, comme les loups et les renards, auraient accès dans leur maison, mais eux-mêmes ne pourraient plus se cacher en plongeant subitement dans l'eau, comme nous les avons vus faire il y a un instant. On juge par là de l'importance du barrage, et on comprend pourquoi le père castor passait tant de temps à le surveiller pour boucher les moindres voies d'eau. Il avait aussi pas mal à faire pour empêcher le conduit ménagé au sommet de la digue d'être obstrué par des débris. L'eau devait s'écouler librement par ce déversoir, faute de quoi le niveau de l'étang monterait et sa hutte serait inondée. Entre-temps, le père et la mère donnaient à leurs petits tous les soins nécessaires. Ils changeaient fréquemment leur litière, allaient chercher pour les nourrir de petites branchettes garnies de feuilles tendres. Ils peignaient et brossaient leur peau laineuse à laquelle on peut à peine donner le nom de fourrure, leur tenant de petits discours affectueux avec des intonations singulièrement douces et tendres, dans cet étrange langage des castors qui, entendu à quelque distance, peut faire supposer qu'il y a là des hommes se parlant à voix basse. Les plaintes aiguës des petits, leur bavardage, leur cri strident se faisaient entendre à travers les épaisses parois de la hutte, car ils étaient bruyants à l'extrême chaque fois qu'ils avaient faim, qu'ils étaient contents ou se sentaient inquiets, c'est-à-dire à peu près sans arrêt. Le père et la mère ne s'absentaient jamais en même temps. L'un ou l'autre gardait toujours la maison. Chaque fois que l'un d'eux revenait, après avoir été inspecter le barrage ou chercher une nouvelle provision d'herbes parfumées, il annonçait son retour par un doux murmure auquel répondait aussitôt un déchaînement de cris de bienvenue qui se prolongeait bien plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Sauf quand ils dormaient, jamais les petits castors ne restaient tranquilles. Ils passaient leur temps à se traîner, à se bousculer, à escalader tous les obstacles, et si l'on en juge par le tapage qu'ils faisaient, ils devaient énormément s'amuser. Ils étaient maintenant assez grands pour essayer de nager dans le trou de plongée, bien que pour l'instant, l'exercice consistât surtout à faire la planche, pas toujours dans le bon sens, et à tourner en rond avec de petits cris de joie. Ils étaient si légers avec leur fourrure remplie d'air qu'ils ne parvenaient pas à plonger leurs deux pattes palmées en même temps. Aussi nageaient-ils tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre, ballottant de droite à gauche, rebondissant, criant, se tortillant, pendant que les parents les surveillaient d'un air inquiet, en leur donnant d'une voix grave des encouragements ou peut-être des conseils. D'après ce que j'ai pu observer en pareil cas, ces leçons de natation donnaient aux parents beaucoup de mal, mais c'était pour les enfants une vraie partie de plaisir. Les petits, cependant, se fatiguaient vite, et bientôt ils regagnaient le séchoir, parti de la chambre où le sol est un peu plus bas, de façon que l'eau s'écoule sans risquer de mouiller les litières. Alors, chaque petit castor se frottait soigneusement la poitrine, le dos, les flancs, afin d'exprimer l'eau de sa fourrure. Pour ce faire, il s'asseyait, le buste droit, et besognait ferme, soufflant et haletant comme nous le faisons généralement après avoir mangé. Une fois cette toilette terminée, chacun étant sec ou croyant l'être, un cœur bruyant réclamait le déjeuner. On distribuait les jeunes pousses vertes et les plantes d'eau dont provision avait été faite d'avance, et bientôt toutes les petites mâchoires, travaillant avec activité, les cris aigus se transformaient en grognements et en murmures de satisfaction. Puis, les voix se taisaient, les yeux noirs se fermaient, et les bébés castors s'endormaient, tapis tous ensemble sur leur lit d'herbe parfumée, leurs petites pattes de devant qui ressemblent tant à des mains, agrippées dans la fourrure de leurs frères. Tel devait être l'emploi journalier de leur temps, jusqu'au jour mémorable, dans 3 semaines peut-être, où ils s'aventureraient dans le tunnel obscur et feraient connaissance avec les splendeurs du vaste monde inconnu qui les entourait, mais qu'ils n'avaient encore jamais vu. Les progrès de nos 4 jeunes héros les avaient conduits à la période passionnante où le petit nageur peut enfin plonger sans rebondir aussitôt, la queue en l'air comme une balle de caoutchouc, lorsqu'un jour en plein midi, au moment même où nous avons regardé Gitchi Miguon prendre son repas, le père Castor remarqua que l'eau baissait dans le trou de plongée. Il l'observa un instant. La mère, entendant un gargouillement, vint regarder aussi. L'eau baissait, baissait, tournoyait dans le passage et finit par disparaître tout à fait. L'un après l'autre, les 2 gros castors se précipitèrent dans le trou de plongée, maintenant vide. Il n'y avait pas un instant à perdre. L'eau précieuse dont dépendait la vie de leurs petits s'en allait. Leur maison était maintenant ouverte à tout venant. Cela pouvait être la cause de leur mort à tous. Les 4 petits castors se rendaient compte que quelque chose de terrible se passait, mais ils étaient trop jeunes pour deviner ce que cela pouvait être. Ils se serrèrent les uns contre les autres en pleurnichant, tandis que, plein d'angoisse, leurs parents fendaient ce qui restait d'eau pour gagner le barrage. Ils découvrirent à sa base un trou presque aussi large qu'un baril et suffisant pour drainer en peu de temps toute l'eau de l'étang. Aussitôt, ils se mirent au travail avec acharnement, cassant partout des bâtons, arrachant à la rive marécageuse de grandes brassées de terre, coupant des branchettes aux arbres tombés à l'aide de leurs dents acérées, roulant des pierres dans la brèche, enfonçant dans les interstices herbes et broussailles, puis y plaquant de la boue qu'entraînait aussitôt le courant entre les bâtons, les pierres et les broussailles. Mais l'étang était trop petit pour ne pas s'épuiser vite par un tel trou, et le ruisseau qui l'alimentait était loin de lui fournir l'eau aussi rapidement qu'il la perdait. Quand la digue fut à peu près réparée, l'étang était vide. Le désespoir s'empara des castors. Qu'on n'aille jamais vous raconter que les animaux ne peuvent pas éprouver de désespoir. Mais ils n'abandonnèrent pas leur besogne avant d'avoir mis en place la dernière motte de terre. Alors, leur travail terminé, ils s'en retournèrent d'un pas lourd vers leurs 4 petits, demeurés dans la maison qui ne les protégeait plus. La maison qu'ils avaient construite au prix de tant d'efforts pour les enfants qu'ils aimaient tant. Les castors sont de mauvais marcheurs. Ce trajet, si facile et si vite fait à la nage, représentait maintenant pour eux une marche laborieuse dans la vase glissante ou parmi de grosses pierres et des enchevêtrements d'herbes aquatiques. De précieuses minutes s'écouleraient avant qu'ils aient pu se traîner jusqu'à la grosse butte noire qui semblait maintenant si lointaine. D'ici là, qu'un ours ou un loup vint à passer et les aperçut, ils étaient perdus. Les castors étaient présentement sans défense, n'ayant pas été créés pour se battre, mais pour travailler. Hâtez-vous, Gichimiguan, courez vite, vos petits frères ont grand besoin de vous. Vos petits frères sont en péril. Bientôt, dans une minute peut-être, l'ennemi... Lentement, péniblement, à travers le fond limoneux de l'étang, avançaient les deux gros castors sur leurs courtes pattes fatiguées pour regagner leur maison et leurs petits sans défense, tandis qu'à l'intérieur de la hutte, pressés les uns contre les autres, se cramponnant de leurs mains minuscules à la fourrure de leurs voisins, quatre pauvres petits castors fixaient des yeux terrifiés sur un monstre noir au corps mince, à la tête plate et méchante, qui émergeait du trou de plongée et rampait lentement vers eux en montrant les dents et en sifflant comme un serpent. Négic, la loutre, Négic, l'affamée, la cruelle, la rusée Négic, après avoir crevé le barrage et vidé l'étang, pouvait maintenant s'emparer de ce qu'elle convoitait, la chair tendre des petits castors. Le moment était favorable. Son corps sinueux bloquait le trou de plongée. Aucun moyen de s'échapper ne restait, semble-t-il, aux petites bêtes. Négic se ramassa, prêt à bondir. C'est à cet instant que Gichimiguan, essoufflé, la chemise ouverte, le fusil à la main, s'élança à travers les roseaux à côté du barrage et, sautant de pierre en pierre, se dirigea vers la maison des castors. Chapitre 4. Première aventure. La loutre bondit, mais dans son impatience vorace, elle tenta de saisir tous les petits castors à la fois. Rapides comme des ressorts qui se détendent, ceux-ci se jetèrent de côté et se dispersèrent devant elle. La loutre, qui n'en avait visé aucun, les manqua tous, et tel était son élan qu'elle alla se cogner violemment à la paroi de la hutte. Elle en resta une seconde abasourdie, et les petits castors en profitèrent pour se précipiter dans le tunnel que son corps ne bouchait plus. Rendue furieuse par son échec et sachant qu'au dehors, elle pourrait les attraper un par un, la loutre se retournait pour se lancer à leur poursuite, lorsque le seuil de la maison s'obscurcit de nouveau. Elle n'eut pas d'autre avertissement. Une seconde après, elle luttait sans merci avec les deux gros castors. Ces derniers étaient arrivés juste à temps et ces bêtes, au caractère généralement joyeux et accommodant, étaient prêtes à combattre jusqu'à la mort pour défendre leurs petits. La loutre était plus agile et plus féroce que les castors et elle mordait à la façon des bulldogs sans lâcher le morceau. Mais les castors ont la peau dure et ils ont des dents en forme de ciseaux. Ses dents, capables de scier de grands arbres et qui n'avaient jusqu'alors fait de mal à personne, tailladaient maintenant peau et chair jusqu'à plusieurs centimètres de profondeur. Agrippés à l'ennemi, ils enfonçaient de plus en plus leurs dents tranchantes comme un rasoir. La loutre luttait ferme, car elle n'était pas poltronne, s'efforçant, selon sa méthode favorite, de saisir un des castors par le museau pour empêcher au moins celui-là de se servir de ses dents. Mais tout ce qu'elle arrivait à faire, c'était protéger sa propre gorge contre l'attaque de l'adversaire. Elle se tordait dans tous les sens, lançait à droite et à gauche sa tête de serpent, sifflait, grondait, faisait claquer les mâchoires. Les castors tenaient bon en silence, et tandis que la loutre les traînait de côté et d'autre, ils mordaient de plus belle. La lutte se poursuivit jusqu'au moment où le trio des combattants dégringola dans le tunnel et vint rouler, mélange confus et grouillant de pattes, de queues et de dents luisantes, au pied de Gichimiguan, que ces derniers bonds venaient d'amener près de la hutte des castors. La vue de ce nouvel ennemi acheva de décourager la loutre. Avec un effort violent, elle se dégagea et se mit d'un saut hors de la portée des castors. Ceux-ci, sans faire attention à l'Indien, s'élancèrent à la poursuite de l'ennemi en fuite. Mais le limon gluant qui ralentissait leur marche offrait justement à la loutre le terrain qui lui convenait. Elle se lança dans la boue glissante et franchit d'un trait plusieurs mètres, fit deux ou trois bonds, exécuta une nouvelle glissade, gagna ainsi le barrage, le franchit et disparut pour de bon. Plus jamais celle-ci ne ferait la guerre au castor. Debout sur un rocher voisin, Longue Plume assista à la déroute de la loutre. D'abord il la mit en joue, puis réfléchit qu'elle avait reçu une punition suffisante et la laissa aller. Cependant, tout rentrait dans l'ordre, et l'eau commençait à s'amasser de nouveau. Une bonne flaque s'était déjà formée au fond de la cuvette de l'étang, et elle s'élargissait sans cesse, retenu par le barrage que les castors avaient réparé. Longue Plume fut même obligé de se hâter pour regagner la rive avant que les grosses pierres ne fussent submergées. Cependant, il gardait quelque inquiétude au sujet des jeunes castors qu'il avait vus se précipiter hors de la hutte et qu'il n'avait plus aperçu depuis. Il s'assit sur le bord de l'étang, à un endroit où il ne pouvait être ni vu ni senti, et observa les alentours. Bientôt, il vit la mère castor qui commençait à réunir ses petits. Deux d'entre eux étant sortis de leur cachette, elle alla les chercher l'un après l'autre. Chacun à son tour monta sur la grosse queue plate de la mère et s'y tint debout, les mains accrochées dans la fourrure maternelle pour conserver l'équilibre, et fut ainsi transporté à travers la vase jusqu'à l'habitation. Tandis qu'elle se laissait véhiculer de cette singulière façon, les petites bêtes regardaient autour d'elles, attentives et curieuses, et sans aucun doute très satisfaites de leur sort. Je crois que Gitchimigwon s'amusait autant que les petits castors en les voyant regagner ainsi leur demeure, et il riait tout seul de ce spectacle comique. Tout en regardant, il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il est criminel de chasser des êtres qui se donnent tant de mal pour protéger leurs petits et leur humble demeure et qui semblent avoir tant d'affection les uns pour les autres. C'est presque comme si l'on tuait des enfants, pensa-t-il. Jamais jusqu'alors il n'avait assisté à un spectacle de ce genre et il commençait à comprendre pourquoi certains vieux Indiens appellent les castors le peuple castor et les petits frères qui parlent. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 46, Sajo et ses castors par Gray Hall.